Bonjour, bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous politique du dimanche de France Inter, de France Info à la télé, en partenariat avec le journal Le Monde. Celle qui a accepté notre invitation jusqu'à 13h se présente sur Twitter comme, dans cet ordre, maire, romancière et ministre, mais c'est plutôt à ce dernier titre que nous la recevons aujourd'hui. Entre mai 2017 et juillet 2020, elle est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte aussi contre les discriminations. Alors si elle a abandonné ce portefeuille depuis, elle reste très en pointe sur ces sujets et au lendemain de la grande manifestation « Nous toutes contre les violences sexistes et sexuelles », nous lui demanderons de tirer le bilan de l'action du pouvoir du gouvernement en rappelant et en ayant en tête qu'Emmanuel Macron avait en 2017 fait de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles la grande cause de son quinquennat. Comment voit-elle également émerger le MeToo politique qui secoue jusqu'à son propre camp politique? On lui posera la question. Mais depuis juillet 2020, notre invité est ministre délégué en charge de la citoyenneté, un sujet qui prend de plus en plus d'importance à mesure que s'approche l'élection présidentielle, grand moyen d'expression de la citoyenneté politique. Justement, comment redonner aux Français le goût de venir voter, notamment aux plus jeunes qui se détournent des scrutins? Quel est son regard sur le climat politique plutôt violent du moment et le quasi-lancement aussi de la campagne d'Emmanuel Macron, son champion, le président de la République, qui vient de recevoir le soutien de 600 élus de terrain dans une tribune parue ce matin dans le JDD? Toutes ces questions, et bien d'autres bien sûr, nous les poserons à notre invité avec nous et en direct jusqu'à 13h. Marlène Schiappa, c'est elle, et l'invité de Questions politiques.
Questions politiques. Thomas Negaroff sur France Inter.
Bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation pour vous poser des questions. Je serai comme chaque semaine en compagnie de la bande de Questions politiques. Cette semaine, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Claire Gatinois du Monde. Bonjour Claire.
Bonjour.
Et Karine Bécard de France Inter.
Salut tout le monde.
Salut Karine. Bonjour. Tout à l'heure, Alexandra Ben Saïd viendra vous poser quelques questions d'économie. Le hashtag #QuestionPol pour tous les gens qui nous écoutent et nous regardent pour les questions et les commentaires. Marlène Schiappa, malgré les annonces d'envoi du RAID et du GIGN hier par Gérald Darmanin, en Guadeloupe, la nuit a été marquée par d'intenses violences, des pillages, des incendies, des forces de l'ordre prises pour cible aussi, des violences contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale sur l'île. Est-ce que la réponse ne peut être que sécuritaire à une colère qui semble dépasser et de loin le simple cadre sanitaire?
Non, je crois qu'il y a une situation qui est particulière, singulière et qui est difficile en Guadeloupe. On l'a vu avec ces nuits de violence urbaine qui ont existé. Donc il y a un envoi d'abord de 250 militaires de la gendarmerie et policiers, dont une cinquantaine du RAID et du GIGN, annoncé par le ministre de l'Intérieur. Mais par ailleurs, le Premier ministre Jean Castex va recevoir avec Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, les élus de Guadeloupe à leur demande dès le début de semaine pour avancer ensemble sur la manière dont on peut apporter des réponses qui soient spécifiques à la situation sanitaire mais aussi sécuritaire en Guadeloupe.
Mais vous voulez bien la situer clairement, cette situation? Est-ce qu'on peut parler d'une situation insurrectionnelle? Parce que c'est ça qu'on voit quand on regarde les images.
Moi, je vais me garder, je ne suis pas une spécialiste de la Guadeloupe, et je vais me garder de qualifier particulièrement cette situation. Ce que je vois en revanche, et ce que j'estime en tant que ministre et particulièrement chargée de la citoyenneté et en tant que républicaine, c'est que la Guadeloupe doit être traitée comme tout autre territoire de métropole. Et donc, on se doit d'apporter un soutien, une présence, un secours. C'est ça aussi la République. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y avait hier une cellule interministérielle de crise avec le ministre de l'Intérieur, avec Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, et que la situation a été appréhendée pour à la fois réussir à ramener le calme en Guadeloupe, mais également prendre en compte la situation sanitaire qui est particulière. Pourquoi il y a ces violences? Parce qu'il y a un couvre-feu qui a été déclaré, parce qu'il y a une situation sanitaire difficile sur la question de la pandémie de Covid-19 en Guadeloupe. On ne peut pas en faire fi.
Et on a l'impression quand même qu'il y a 90% du personnel hospitalier médical qui est vacciné. Donc finalement, ça va mieux que c'était il y a un mois, et qu'il y a 50% de la population qui est vaccinée. Donc est-ce que certains ont l'air de dire qu'en fait, ce sont des émeutes qui utilisent la situation sanitaire pour finalement revendiquer autre chose?
Ce qui est certain, c'est que les émeutes, elles sont le fait d'une petite minorité, comme c'est souvent le cas quand il y a des violences. Mais là, on est face à une situation où il y a eu quand même des pillages de magasins, des violences très préoccupantes pour que l'on envoie 250 militaires et policiers, c'est que justement on prend au sérieux cette situation et qu'on ne veut pas la laisser s'installer, à la fois sur le plan sécuritaire, mais aussi plus globalement, comme je vous le disais, comme Jean Castex va recevoir les élus de Guadeloupe, il y a des décisions qui seront prises et des solutions communes qui seront apportées dans le dialogue avec les élus.
Mais la Guadeloupe est abandonnée depuis des années, ça c'est ce que dit Marine Le Pen, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ?
Non, je suis évidemment pas d'accord, nous avons un ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui est très présent, qui est très à l'écoute, et d'ailleurs c'est reconnu par l'immense majorité des élus de Guadeloupe qui travaillent avec lui, il les reçoit très régulièrement, il y a eu un certain nombre de déplacements de ministres, donc non, elle est tout sauf abandonnée.
Après, mais depuis 4 ans, qu'est-ce que vous avez apporté à la Guadeloupe ? Qu'est-ce qui a changé ? Quelles sont les mesures qui ont été prises ?
Beaucoup de choses. D'abord, comme je le disais précédemment, et moi je le dis en tant que personne d'origine corse et donc d'une origine insulaire, même si la Corse n'est évidemment pas comparable aux Outre-mer, c'est néanmoins un territoire qui est en dehors de l'Hexagone. Et donc moi, ce que je veux dire en tant que républicaine, c'est que nous avons apporté d'abord les mêmes droits fondamentaux que ceux que nous avons apportés dans l'Hexagone. Et ça, c'est important. Il y a un taux de précarité en Guadeloupe très élevé, supérieur à la moyenne nationale. Et donc toutes les mesures que nous avons prises, et je crois savoir que nous en parlerons tout à l'heure, elles ont bénéficié aussi à la Guadeloupe. Maintenant, il y a une situation effectivement particulière là-bas. Et le fait que le gouvernement réagisse immédiatement, à la fois sur le plan sécuritaire et sur le plan sanitaire, c'est un signe, bien sûr, de préoccupation de la part du gouvernement.
Si on reste sur la question du Covid, mais cette fois en métropole, on est en France dans une campagne pour inciter les gens à effectuer cette troisième dose qui semble de plus en plus cruciale. On se souvient qu'en septembre, Emmanuel Macron parlait d'un relâchement des contraintes, alors que les experts alertaient déjà sur la difficulté à venir de la baisse de l'immunité du vaccin et des températures fraîches de l'hiver qui étaient propices à la résurgence de cette pandémie. Est-ce qu'on n'a pas perdu du temps dans ce combat-là ?
Non, d'abord, moi, je veux dire qu'on parle très souvent des minorités, comme on vient de le faire en Guadeloupe, qui s'opposent à un certain nombre de mesures, mais je veux rappeler que l'immense majorité des Français respectent de manière très responsable les mesures qui ont été demandées. J'étais en déplacement diplomatique en Autriche il y a de cela une quinzaine de jours. La situation en Autriche n'est pas du tout la même qu'en France. Au-delà des stéréotypes qu'on peut avoir sur le comportement culturel de tel ou tel pays, en Autriche, le taux de vaccination est bien moindre par rapport à la France. Donc en France, il y a eu un taux de vaccination quand même très satisfaisant, une couverture vaccinale efficace d'une part. D'autre part, le pass sanitaire est globalement très bien respecté. Par exemple, dans les restaurants, les hôtels, il y a eu un peu plus de 20 000 contrôles ces dernières semaines, seulement 14 verbalisations. Donc on voit qu'on est vraiment dans un taux infime de structures qui ne respectent pas les mesures.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des mesures qui ne sont pas prises ? Par exemple, le télétravail, est-ce qu'il ne faut pas redemander aux gens de télétravailler parce que c'est nécessaire en ce moment ?
Chaque chose en son temps. D'abord, là, il y a effectivement cette campagne pour la troisième dose. Et j'appelle chacun, et particulièrement les personnes âgées, les personnes les plus fragiles, à faire véritablement ce rappel. En fait, on parle d'une troisième dose, mais c'est un rappel, hein, comme on a des rappels pour d'autres vaccins, y compris quand on est plus jeune. Et donc, je crois que ça, avant tout, c'est important. Continuer à porter le masque en intérieur. Mais là encore, sincèrement, j'observe que ces mesures-là, elles sont suivies. Dans les transports en commun, on voit bien que les gens, dans leur immense majorité, portent le masque.
Donc, elles sont suivies, mais l'épidémie galope. C'était 22 000 nouveaux cas en 24 heures, ces dernières 24 heures.
Oui,
donc il faut bien prendre des mesures supplémentaires.
Bah, écoutez, à ce stade, je n'ai pas de mesures supplémentaires à vous annoncer ce matin, en tout cas.
Est-ce qu'il y a une réflexion sur l'éventuel caractère obligatoire de la vaccination ? Ça monte dans un certain nombre de pays en disant on ferait mieux de faire les choses carrément au lieu de faire un pass sanitaire. D'abord, on pourrait faire un pass vaccinal, c'est-à-dire on a un pass que si on est vacciné, et puis in fine, bon, les choses obligatoires. Est-ce que sur moi, c'est en réflexion au gouvernement.
Enfin, je ne suis pas ministre de la Santé, mais à ce stade, à ma connaissance, le choix qui a été fait, c'est le choix du pass sanitaire. Et le pass sanitaire, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est justement un moyen pour
d'obliger les gens à se faire vacciner, oui.
D'inciter très fortement, en tout cas, à la vaccination et de rappeler que se vacciner, c'est se protéger soi et protéger les autres. Mais je rappelle encore une fois qu'en France, nous ne sommes pas dans la même situation que d'autres pays européens ou d'autres pays dans le monde. Nous avons des vaccins et l'immense majorité de la population et vacciner sans réticence. Il y avait d'ailleurs hier une petite mobilisation, je crois que c'était les patriotes contre le vaccin ou contre le pass, quelque chose comme ça. C'était infime, c'était vraiment minime. L'immense majorité des Françaises et des Français sont vaccinés et se plient au pass sanitaire parce qu'ils ont compris que c'était un moyen de retrouver nos libertés, de sortir, de se voir.
Est-ce que ça veut dire, Marlène Schiappa, que la ministre de la Citoyenneté décerne un satisfecit à la citoyenneté des Français ?
Mais absolument. Et moi, je le dis souvent, je déplore qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, mais on ne parle pas de cette immense majorité des Françaises et des Français qui respectent les mesures. On est plusieurs parents peut-être autour de la table. Les enfants maintenant portent le masque à l'école et on voit que c'est difficile. C'est pas une situation qui est facile ni pour les enfants, ni pour les enseignants, ni pour les parents. Néanmoins, cela est suivi parce que les Français ont bien compris quels étaient les enjeux derrière.
France Inter. Question politique.
Marlène Schiappa avec nous jusqu'à 13h. Hier, des milliers de personnes, beaucoup de femmes, mais pas seulement, ont manifesté sous le slogan « Nous toutes » pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles qui perdurent dans le pays, y compris leur expression la plus tragique avec cette semaine, le cap terrible des 100 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint qui a été dépassé. Est-ce que vous partagez leur combat à ces femmes dans la rue, dont certaines d'ailleurs ont appelé à votre démission, à celle de Gérald Darmanin ?
Alors là encore, pardon, je vais commencer par parler des strictes minorités, mais en fait, il y a un collectif d'extrême-gauche anticapitaliste qui appelle à la démission de tout le gouvernement parce qu'elles sont contre le principe même d'État pour l'abolition de la police, etc., etc. C'est une infime minorité. On a eu 18 000 personnes, ce sont les chiffres de la préfecture de police, qui ont défilé. Et moi, bien évidemment, je soutiens ces femmes qui défilent. Vous savez, il y a plusieurs années, j'avais publié un livre sur la culture du viol qui s'appelait « Où sont les violeurs ?» avant d'être ministre. Et je disais justement dans ce livre, je déplorais le fait qu'il n'y ait pas de grande mobilisation en France et dans les pays européens de femmes qui appellent justement à mieux lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Cette mobilisation, depuis quelques années, elle existe. Et bien évidemment, je la salue et je soutiens les femmes qui ont d'ailleurs, à cette occasion, avec des pancartes, témoigné de ce qu'elles vivaient.
Claire Guétinois.
Sur cette question des féminicides, c'était, Thomas l'a rappelé tout à l'heure, une grande cause du quinquennat. On voit qu'en Espagne, il y a eu aussi une forte mobilisation sur le sujet avec des résultats chiffrés, une baisse de 25% des féminicides depuis 2004. En France, c'est pas le cas. On en est au 100e depuis le 1er janvier.
Et 600 depuis le début du quinquennat.
Est-ce qu'on peut parler d'un échec dans ce domaine-là?
D'abord, je veux dire à quel point on est mobilisé sur ce sujet et à quel point, parce qu'il faut quand même rappeler les choses factuellement, c'est la première fois qu'il y a un président de la République qui s'empare de ce sujet et que cette question des violences conjugales est traitée au plus haut niveau de l'État. Ça n'était pas précédemment, ça n'a jamais été une priorité politique affirmée comme telle.
Donc pourquoi 2017, on est toujours à 100 féminicides au 30 novembre ?
Je vais vous répondre. En 2017, Emmanuel Macron a rendu un hommage avec une minute de silence à l'Élysée aux femmes tuées par leur conjoint. C'était une demande des associations de longue date. En 2019, Édouard Philippe a lancé le Grenelle des violences conjugales. C'était la première fois qu'un Premier ministre s'emparait avec une mobilisation de toute la société de ce combat important. Et on a mis en place plusieurs mesures, peut-être qu'on pourra y revenir. Pour répondre à votre question, oui, effectivement, en Espagne, je ne dirais pas que ça ne marche pas, parce que vous voyez qu'en 2020, il y a eu une baisse considérable par rapport à 2019 du nombre de féminicides. Je ne m'en réjouis pas parce que, un, on va voir dans la durée ce qu'il en est d'une part. D'autre part, il y avait le confinement. Les experts savent très bien que l'annonce de la rupture est un élément déclencheur du féminicide. Du fait du confinement, on peut imaginer qu'il y a eu moins d'annonces, entre guillemets, de rupture. On peut aussi imaginer qu'il y a eu une vraie mobilisation pendant le confinement. C'est ce qu'on a vu, nous, en tout cas. Il y a eu des dispositifs déployés qui n'avaient pas été déployés avant. Et je veux vous dire qu'aujourd'hui, notre travail, c'est faire en sorte que toutes les femmes qui souhaitent porter plainte puissent porter plainte. Mmh. C'est pour ça qu'on forme les policiers, qu'on arrive bientôt à 100 000 policiers et gendarmes formés. C'est pour ça que maintenant, on peut s'adresser aux forces de l'ordre en envoyant un SMS au 114. Je le dis aux femmes qui nous écoutent, si elles ne peuvent pas parler, elles peuvent écrire par SMS au 114. C'est pour ça que nous avons créé la plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des policiers, des gendarmes et même des psychologues peuvent répondre, intervenir à distance, prendre des plaintes, les préparer avec ces femmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme qui veut saisir la justice, elle peut le faire, y compris sans pousser la porte d'un commissariat, d'une gendarmerie, c'est très important.
Et pour mesurer le défi, si on s'intéresse uniquement aux violences sexuelles et aux viols en particulier, une femme sur 10 victime de viol porte plainte, et quand elle porte plainte, une sur 10 à peu près voit celui qui l'a accusé comme étant puni par la loi.
C'est ce qui m'avait amené à dire au début du quinquennat que 1% des violeurs seulement sont en prison, effectivement. J'avais d'ailleurs été beaucoup critiquée pour avoir relayé.
La situation n'évolue pas, on peut le dire aujourd'hui, puisqu'il y a effectivement une forte mobilisation sur le sujet, mais peu de résultats.
Non, moi je ne dirais pas que la situation n'évolue pas. Vous mentionniez l'Espagne. L'Espagne s'est emparée en 2004 de la question des féminicides. Il y a eu effectivement dans un premier temps des baisses en Espagne, ensuite des hausses, et on a vu qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui n'ait réussi à éradiquer ni les féminicides, ni les violences conjugales, et bien évidemment, je le déplore. La France s'en est emparée à partir de 2017. Ce sont des phénomènes qui existent depuis l'Antiquité, et donc c'est long, c'est évidemment long, c'est un travail de tous les jours pour faire en sorte de dire aux femmes, vous pouvez venir vous saisir de ces dispositifs.
Nathalie
Saint-Pierre. Et la situation, elle évolue dans la mesure où il y a davantage de plaintes aujourd'hui, dans la mesure où aujourd'hui il y a davantage de condamnations. On a créé, par exemple, la saisie des armes dès la plainte. Vous savez peut-être que l'arme à feu, c'est le premier mode opératoire du féminicide. Aujourd'hui, quand une femme va déposer plainte, il y a une perquisition immédiate pour aller saisir les armes à feu. Ça fait un an à peu près que c'est mis en place. Donc oui, c'est long pour que ça porte ses fruits.
Et vous diriez que qu'est-ce qui bloque, en fait, pour qu'on puisse comprendre? Parce qu'on a vu Dupond-Moretti Éric Dupond-Moretti qui a dit qu'il en avait assez, que les bracelets anti-rapprochement restent dans les tiroirs. Quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y en a 500 qui ont été ordonnés cette année, donc 341 qui sont actifs, ce qui semble totalement faible au regard du nombre de femmes. Pas assez de téléphones grave danger. Est-ce qu'il y a des phénomènes culturels qui font qu'on ne met pas assez ses bracelets? Est-ce que les téléphones,
sûr,
on en a passé? C'est quoi votre prochaine frontière pour que ça marche?
On parle souvent de la transition écologique. Moi, j'observe que nous vivons en ce moment une transition féministe et que nous sommes dans cette période de transition où vous avez eu 4 lois en 4 ans pour améliorer les droits des femmes et qu'il faut maintenant que cela descende sur le terrain. Moi, quand j'avais été nommée dans mes précédentes fonctions, je m'étais aperçue que les associations me disaient il n'y a pas assez de téléphones grave danger. On n'en a pas, on en demande, on n'en a pas, etc. Et donc, j'étais allée voir la chancellerie et à la chancellerie, on m'avait dit mais bien sûr qu'il y a des téléphones grave danger. Voilà le nombre de téléphones grave danger qui sont financés. Ils étaient financés mais pas attribué. Ça veut dire que vous aviez des téléphones grave danger dans les tiroirs.
Ça vient des magistrats, ça vient des femmes,
bien sûr.
Ça vient des policiers.
Ça vient du fait que, un, ils n'étaient pas assez demandés, donc que ce sont des dispositifs qui ne sont pas assez connus. On m'a parfois reproché de trop communiquer ou de beaucoup communiquer. Je crois que c'est fondamental de communiquer pour faire connaître ces dispositifs. Le bracelet anti-rapprochement, il y a encore plein de femmes victimes de violences qui ne le connaissent pas. Vous savez, moi j'ai reçu Valérie Bacot. Chacun se souvient de son histoire et je lui ai dit, mais madame, pourquoi n'avez-vous pas à aucun moment dans votre parcours, et c'est pas du tout évidemment un reproche, mais c'est une question, pourquoi à aucun moment vous n'avez appelé une association, vous n'avez saisi cette plateforme que j'évoquais, demandé un téléphone? Et elle m'a dit, mais moi je savais pas que tout ça existait, je ne savais pas, comment l'aurais-je su? Je ne savais pas, je n'avais personne dans mon entourage qui était au courant de cela, je ne connaissais pas d'avocat, je ne savais pas qu'il y avait des associations qui pouvaient m'aider là-dessus.
Justement, Madame Schiappa,
ça, c'est important.
En parlant d'avocat, est-ce que vous êtes favorable à cette demande d'un certain nombre d'avocats que chaque femme qui porte plainte dans un commissariat puisse être accompagnée d'un avocat?
Bien sûr, j'y suis très favorable et je vais même vous dire au-delà, nous avons reçu des représentantes du barreau de Paris et des avocates qui ont fait cette demande avec le ministre de l'Intérieur. Et immédiatement après, nous avons ordonné la constitution d'un guide qui sera à disposition dans tous les commissariats et toutes les gendarmeries à partir de la semaine prochaine, qui est le guide des droits des victimes et qui rappelle tout ce que vous avez le droit de faire en tant que victime, qui rappelle qu'on n'a pas le droit de refuser votre plainte, que si vous voulez déposer une plainte et pas une main courante, eh bien c'est une plainte et pas une main courante, qu'on n'a pas le droit de ne pas vous donner de suite, que vous avez le droit d'être accompagné par un avocat ou une avocate dès le moment du dépôt de la plainte. Pourquoi peut-être rappeler pourquoi les avocats demandent cela? Parce que la manière dont la plainte est qualifiée est fondamentale pour la suite. Quand vous arrivez au procès avec une plainte qui est mal qualifiée, c'est délétère pour la femme qui a porté plainte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé la grille d'évaluation du danger dans le cadre du Grenelle des violences conjugales. Vous avez plusieurs dizaines de questions dans cette grille qui permettent d'évaluer la dangerosité et de bien qualifier, par exemple, est-ce qu'il y a eu viol conjugal, parce que les femmes n'en parlent pas forcément spontanément, est-ce qu'on a du harcèlement psychologique, est-ce qu'on a des violences physiques, des violences sexuelles, et ça permet justement de mieux qualifier la plainte pour que ce qu'on évoque et qu'il y ait des condamnations ensuite puissent exister.
Donc vous dites tout va bien, il faut juste se donner 10 ans pour vraiment arriver à nos objectifs.
C'est pas du tout ce que je dis. Enfin,
non, mais enfin, par tout va bien, je veux dire,
non,
vous avez...
Non, mais je me permettrai jamais de dire ça.
Oui,
non,
va, tout va
non,
mieux.
C'est un combat que je porte depuis l'adolescence, si vous voulez, avant que ce soit la grande cause du quinquennat, avant qu'il y ait des manifestations, je faisais partie de cette minorité de femmes qui essayent de faire entendre qu'il y a un problème dans la situation des femmes.
Mais elle est mieux prise en compte, c'était ça que je voulais dire.
Ce que je dis, c'est qu'il existe aujourd'hui bien davantage de dispositifs. Et que maintenant, il faut que ces dispositifs, ils existent. Il faut que chaque femme, dans chaque lycée, dans chaque fac, dans chaque lieu de travail, dans chaque foyer, que chaque femme connaisse les droits dont elle peut disposer. Et j'en appelle également aux témoins. Parce que Nathalie Saint-Cricq posait très justement la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce qui bloque. Nous sommes encore dans une société misogyne, je suis désolée de le dire. Il y a un sondage ce matin qui est paru, qui dit que 60% et quelques des Français se disent féministes. Mais plus de 60% des hommes considèrent qu'ils ne vivent pas différemment des femmes et qu'ils ne sont pas mieux considérés que les femmes, ni au travail, ni dans le couple, etc. Ça nous montre à quel point ce mythe de l'égalité déjà là existe encore.
Marlène Schiappa, dans vos écrits, vous avez évoqué tout à l'heure votre livre sur la culture du viol, très ancien livre, vous évoquiez la question de l'importance d'entendre la parole des femmes qui accusent. Et oui, aujourd'hui, cette parole, on l'entend de plus en plus. Il y a le mouvement MeToo Média et puis, depuis quelques jours, il y a le hashtag MeToo Politique. Comment est-ce que vous l'avez accueilli, sachant que, je le disais en introduction, dans votre camp politique, il y a deux députés qui aujourd'hui sont pris dans des affaires de harcèlement sexuel, un étant condamné, un autre en appel.
Mais écoutez, comme moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que qu'on fasse des, comment dire, que ce soit parcellaire et qu'on nous dise il y a MeToo théâtre, et donc là on dit oh là là, le théâtre c'est vraiment mieux difficile, MeToo cinéma, oh, le cinéma, etc., le rapport Sauvé dans l'église, et là on dit oh, l'église c'est compliqué, maintenant MeToo politique.
Mais c'est votre secteur à vous,
bien sûr, politique. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait des violences sexistes et sexuelles, il y en existe hélas dans toute la société, partout, et il faut les voir partout, et donc c'est bien si ça peut rendre visible le fait que dans le milieu politique, peut-être plus que dans d'autres milieux, ou différemment, parce que ce sont des milieux très fondés sur le pouvoir, fondés sur... vous avez davantage de possibilités de faire du chantage, je dirais bien, si tu dénonces des viols, tu ne seras pas investi, on ne te fera pas élire, on ne te fera pas nommer. Voilà, le milieu politique, c'est un milieu qui fonctionne de manière très, très intuitive, personnelle, oui, corporatiste aussi. Donc c'est bien sûr, probablement, aussi difficile, mais je pense que quand vous êtes apprenti boulangère dans une boulangerie et que votre patron vous harcèle sexuellement, ce n'est pas plus difficile.
Attendez, vous n'êtes pas inquiète par un phénomène qui est que finalement tout ça, ça se passe hors justice. C'est-à-dire que si on crée 54 MeToo dans toutes les professions, on puisse déballer dans les réseaux sociaux un certain nombre de choses vraies ou fausses et que ça vous échappe à un moment donné. C'est très bien de libérer la parole des femmes, encore faut-il qu'elles soient contrôlées et qu'il n'y ait pas des gens qui soient traînés dans la boue pour rien. Ça vous perturbe pas?
Ah, moi, j'ai toujours dit que la justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire, moi, je dis deux choses. La première chose...
MeToo, ça se passe aussi dans les médias, sur les réseaux.
Alors là, MeToo politique, c'est un peu différent, parce que MeToo politique, c'est parti d'une tribune de femmes politiques, avec des députés, des anciennes ministres, qui ont fait une tribune, je crois, dans Le Monde, d'ailleurs, ou dans une presse écrite, en tout cas. Donc là, il ne s'agissait pas de témoignages. Mais je dis deux choses. Un, quand une femme a été victime de viol, moi, je ne suis personne pour lui dire « tu ne dois pas en parler par tel biais, mais tu dois en parler par tel biais ». Il n'y a pas d'injonction de ma part à déposer plainte, parce qu'on sait très bien qu'affronter un procès, notamment pour des violences sexuelles, c'est difficile, il faut en être prête, particulièrement quand on les a vécues jeunes, première chose. Deuxième chose, bien évidemment, Twitter n'est pas un tribunal et la justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux.
Oui, mais ça peut devenir comme ça à terme.
Mais vous savez, c'est justement pour ça qu'on a créé tous ces dispositifs de signalement qui n'existaient pas il y a 5 ans. Vous me demandez quelle est la différence maintenant. En 2016, quand vous vouliez déposer plainte, soit vous alliez dans un commissariat ou une gendarmerie, soit vous étiez condamné au silence. Et bien aujourd'hui, vous pouvez envoyer ces messages au 114, vous pouvez saisir cette plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr. Nous avons même lancé avec le ministre de l'Intérieur la plainte hors les murs, la plainte chez autrui. Si vous voulez déposer plainte, mais pour X raisons, vous ne voulez pas aller dans un commissariat, parce que vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse si vous êtes une femme politique, parce que vous habitez, vous êtes dans un milieu rural, sur une île, dans un endroit où tout le monde se connaît, parce que vous avez peur d'être mal reçu, eh bien, il y a cette plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr et il y a la plainte chez autrui. Ça peut être chez l'avocat, ça peut être en mairie, ça peut être dans un hôpital. On a créé des conventions entre le ministère de l'Intérieur et des hôpitaux. Et donc, il existe aujourd'hui pléthore de solutions pour saisir la justice, y compris sans se rendre dans un commissariat.
Marlène Schiappa, est-ce que vous êtes d'accord pour allonger le délai je change complètement de sujet, pour allonger le délai de l'IVG de 12 à 14 semaines? Il y a une proposition de loi qui va à nouveau arriver devant le Parlement dans 8 à 10 jours. La majorité y est très largement favorable. Quel est votre point de vue?
Moi, je vais vous donner mon point de vue. Avant, je voudrais peut-être rappeler, vous dire vraiment mon point de vue profond sur la question de l'IVG. Je trouve que l'IVG aujourd'hui en France est trop souvent un droit formel et pas un droit réel. C'est-à-dire que dans les textes et selon la loi, vous avez d'ores et déjà le droit d'avorter pendant le premier trimestre. Or, dans la réalité, vous avez trop de zones en France qui sont des déserts médicaux, dans lesquelles vous n'avez pas accès à un gynécologue, dans lesquelles vous n'avez pas accès à un rendez-vous à l'hôpital et dans lesquelles vous ne pouvez pas avorter.
Donc, est-ce que la solution, c'est d'allonger le délai?
Eh bien, c'est une question que je me pose. Je pense que allonger le délai allonge la possibilité de ce droit et de l'accès. Mais je crois que la bonne solution, quand une femme s'aperçoit qu'elle est enceinte à 6 semaines et veut avoir accès à un avortement, ça n'est pas de lui dire prenez un ticket et attendez la 14e semaine. C'est qu'elle puisse immédiatement y avoir accès. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui partent à l'étranger. On parle des dénis de grossesse. Les dénis de grossesse est une infime minorité dans les grossesses. Souvent, les femmes savent très bien qu'elles sont enceintes, mais elles n'ont pas accès à un gynécologue ou à un rendez-vous à l'hôpital pour pouvoir s'engager dans cette démarche. Et c'est ce que disent les plannings familiaux. C'est ce que disent aussi les gynécologues partout en France.
France Inter. Question politique. Thomas Negaroff.
Et on accueille sur ce plateau Alexandra Ben Saïd. Bonjour Alexandra.
Bonjour Thomas, bonjour Marlène. Bonjour. Schiappa. On va continuer à discuter des femmes sur le volet économique, si vous voulez bien.
Avec plaisir.
Nous sommes le 21 novembre, depuis le 3 novembre, 9h22 exactement, les femmes travaillent gratuitement, ça tombe bien.
Un plaisir d'être là quand même.
Il y a moi qui ça va, il y a des sous sur votre dos, merci
vous
madame.
Vous êtes richissime.
C'est le calcul symbolique en tout cas d'un collectif féministe, les Glorieuses, vous les connaissez, qui dénoncent les inégalités salariales. À ce rythme-là, l'égalité salariale homme-femme, elle est programmée pour l'an
2234, n'est-ce d'après pas. Le World Economic Forum.
Alors, que s'est-il passé pendant ce quinquennat? En 2018, il y a eu l'index de l'égalité des salaires hommes-femmes. Bon, c'est un peu plus de transparence, c'est un coup de projecteur, mais au fond, ça n'a pas vraiment accéléré les choses.
Mais écoutez, à mon humble avis, et je suis ravie que vous me posiez la question, je trouve qu'on a beaucoup fait pendant ce quinquennat pour mieux lutter contre les violences conjugales et contre les violences sexistes et sexuelles. Et d'ailleurs, le président Emmanuel Macron avait dit, quand il avait lancé sa grande cause du quinquennat, le premier pilier pour moi, ce sera mieux protéger les femmes face aux violences, parce que c'est le pilier fondamental. Et ensuite, vous avez tout à fait raison, il y a ce combat pour l'égalité salariale dont il faut mieux s'emparer. Alors des choses ont été faites, vous avez mentionné l'index. L'index, il a vocation d'abord à faire la transparence, mais aussi à rappeler chacun à ses obligations. Avant d'être ministre, pendant 10 ans, j'ai présidé une association qui faisait un genre de porte-à-porte auprès des entreprises pour leur demander où elles en étaient. Et par exemple, on leur disait au retour du congé maternité, vous n'êtes pas sans savoir qu'une femme, légalement, doit percevoir une augmentation de salaire égale à la moyenne des augmentations à poste égal dans le service. Et bien souvent, les DRH ne le savaient pas. Quand on demandait où était la salle d'allaitement au-dessus d'un certain nombre de salariés, eh bien, il y avait parfois une ignorance sur ce sujet. Où étaient les affichages en matière de harcèlement sexuel au travail? C'est idem. Donc je crois qu'il y a effectivement un grand combat à mener sur l'égalité salariale. On s'est emparé, avec la ministre du Travail de l'époque, de l'écart de 9% à poste égal, avec cet index.
La part ensuite... inexpliquée d'écart salarial homme-femme. Oui.
Et ensuite, il y a cette part des jusqu'à 27% selon les différents calculs, fondée sur le fait qu'il y a davantage d'hommes dans les postes à direction et davantage de femmes dans les postes à temps partiel, du soin moins payé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une loi en ce moment qui est étudiée, que nous avions initiée avec Bruno Le Maire et qui est aujourd'hui portée par la députée Marie-Pierre Rixin et par le président du groupe Christophe Castaner. C'est une loi qui vise notamment à élargir les quotas aux postes les plus hauts dans les entreprises pour faire en sorte de faire monter ces femmes et de briser ce fameux plafond de verre.
Vous parlez du plafond de verre. En effet, c'est une politique de quotas. Donc les quotas, finalement, pour faire bouger les hommes dans les entreprises, c'est la seule politique possible?
C'est pas la seule politique possible. Moi, je crois que les quotas sont un mal nécessaire. C'est-à-dire, évidemment, c'est jamais plaisant d'être nommé parce qu'on sait qu'il fallait un quota de femmes. C'est encore moins plaisant de pas être nommé du tout. Et d'ailleurs, les femmes sont 52% de la population. Les quotas à 50% ou même à 40%, c'est déjà un énorme compromis. Ensuite, les quotas sont pas la seule solution. Nous, au ministère de l'Intérieur, par exemple, on a créé un vivier. Parce que très souvent, vous savez, cette fameuse phrase, on voulait bien nommer une femme, mais on n'en a pas trouvé. Moi, je crois que la femme qu'on ne trouve pas, c'est la femme qu'on ne cherche pas. Et donc, au ministère de l'Intérieur, on a fait créer par Femmes de l'Intérieur et le secrétariat général un vivier de femmes, de jeunes talents qu'on identifie, qu'on fait former dans des cycles de formation qui s'appellent les cycles Ariane et Ariane Junior pour les plus jeunes et qui permettent justement de savoir comment nommer des femmes. Je veux d'ailleurs souligner que le président Emmanuel Macron a nommé avec Gérald Darmanin une femme à la tête des CRS, Pascale Dubois. C'est la première fois qu'il y a une femme. C'est la première fois aussi qu'il y a une femme secrétaire générale du gouvernement, Madame Claire Landais, une femme défenseur des droits également. Et il y a une vague de femmes nommées dans la préfectorale.
Pas à l'Élysée, excusez-moi. J'interromps deux secondes, mais enfin, la parité à l'Élysée, on la voit pas.
Pas à l'Élysée, pas à Matignon, pas au Parlement.
Alors oui, alors au Parlement, non.
Pas de président à l'Assemblée nationale.
Parlement, c'est Emmanuel Macron qui a féminisé le Parlement. On parlait des investitures précédemment. C'est le premier candidat à l'élection présidentielle qui a dit « Moi, je veux 50% de femmes sur des circonscriptions gagnables. »
Il avait dit aussi qu'il voulait une première ministre.
Oui, mais 50% de femmes sur les circonscriptions gagnables, c'est grâce à ça que l'Assemblée est aujourd'hui féminisée. Et vous savez très bien qu'il y a des partis politiques qui, dans leur budget, préféraient budgéter l'amende pour non-respect de la parité en se disant « on met pas de femmes, on les envoie là où de toute façon elles vont perdre et c'est pas grave, on perd à l'amende ». C'est pas le choix qu'a fait Emmanuel Macron.
Mais là, on parle de politique, on parle des hauts postes, on est encore en train de parler finalement du plafond de verre. Moi, je voudrais vous parler encore un peu du plancher collant. Non, mais justement, l'égalité salariale, le plancher collant, les temps partiels, 85% de femmes, les tout petits salaires dans les entreprises, ce sont encore des femmes. Et alors, on a parlé des secondes lignes pendant cette pandémie, les caissières, les aides à domicile pour les personnes âgées. On a entendu évidemment l'exécutif aussi dire qu'il va falloir mieux rémunérer l'utilité sociale. Quid ?
Alors deux choses. D'abord, sur les postes de femmes qui étaient en première ligne et en deuxième ligne pendant le confinement, il y a eu le Ségur de la santé avec des augmentations considérables. Aujourd'hui, par exemple, les infirmières, dans certains cas, gagnent jusqu'à 400 euros en plus par mois, justement parce qu'avec le Ségur de la santé, le ministre de Solidarité et de la Santé a voulu augmenter ses salaires et réduire les écarts entre les postes féminins et les autres. Ça, c'est une réduction des écarts de salaire importante, justement en faisant monter les salaires de ces femmes.
Ça, ce sont les premières lignes, les soignants, les caissières. Les caissières, vous leur parlez aujourd'hui, les hôtesses de caisse, elles vous disent rien n'a changé. Il y a eu une prime pour certaines, pas pour toutes, et puis rien n'a changé.
Oui, c'est vrai qu'il y a une question de salaire qui doit être étudiée. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, est en train d'ailleurs de mener un travail avec les partenaires sociaux sur ce sujet. Vous parliez des deuxièmes lignes. Moi, je veux vous dire qu'il y a aussi des personnes qui étaient dans une situation terrible pendant le confinement, qui étaient justement qui ont tenu le pays pendant le confinement et qui n'avaient même pas la nationalité française. Et moi, j'ai pris une circulaire pour les naturaliser. Et vous avez 12 000 personnes qui, à l'époque, étaient des citoyennes et des citoyens, beaucoup de femmes d'autres nationalités, qui étaient étrangers, qui sont aujourd'hui nos compatriotes, qui ont été naturalisés, qui sont français et qui peuvent désormais bénéficier de tous leurs droits de citoyens et de citoyennes françaises et français, justement parce qu'on s'est dit que ces personnes, pendant le confinement, elles ont tenu le pays. On parle de nounous, d'agents de sécurité, de caissières, de personnes qui étaient aides à domicile, etc., qui étaient dehors pendant que le pays était confiné. Ils sont 12 000 et elles sont 12 000 à être aujourd'hui de nationalité française.
En effet, à présent, le pouvoir d'achat, Emmanuel Macron, au début du quinquennat, il supprime l'ISF, il se retrouve avec l'étiquette président des riches.
Alors, 50... il transforme l'ISF en IFI, plus exactement.
En effet, alors, d'accord. Bon, 5 ans plus, l'ISF a quand même disparu. Bon. Et 5 ans plus tard, mérite-t-il cette étiquette? On a une étude de l'Institut des politiques publiques, c'est un organisme de recherche indépendant, et il nous dit quoi? Il nous dit cette semaine que les gagnants sont en effet les plus riches et puis surtout ceux qui travaillent, les actifs. Est-ce que vous êtes d'accord?
Alors, moi je ne vais pas être d'accord ou pas d'accord, c'est une étude de grande qualité, indépendante, comme vous l'avez souligné. Je veux d'abord leur en donner acte. Après, c'est vrai qu'il y a des conclusions de cette étude qui sont un peu différentes des conclusions apportées par exemple par la Direction Générale du Trésor. Et d'ailleurs, dans cette étude, pour celles et ceux qui l'ont lue intégralement, vous savez qu'il y a un passage...
Il y en a peu, je pense.
Bon, en tout cas, il y a un passage dans lequel eux-mêmes prennent des pincettes en disant qu'il y a une hétérogénéité, je vais y arriver...
Des situations,
merci beaucoup, qui ne permet pas justement d'avoir des analyses empiriques. En revanche, là où je rejoins cette étude, c'est que c'est vrai que la politique du président de la République, c'était de valoriser le travail et donc de faire en sorte que les personnes qui travaillent et qui ont des bas salaires sont celles qui ont le plus gagné en pouvoir d'achat. Mais je veux rappeler par exemple le reste à charge zéro, le fait qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont en difficulté financière, qui peuvent avoir accès aux soins dentaires, avoir des lunettes. Ça n'était pas le cas précédemment. Et c'était une situation terrible de se dire que dans notre pays, en fonction de votre revenu, parfois vous n'aviez pas les moyens d'avoir accès aux soins dentaires ou simplement de vous acheter des lunettes quand vous en avez besoin. Aujourd'hui, c'est le cas avec le reste à charge zéro. Vous parliez des femmes. Le président de la République a monté le dispositif de reversement des pensions alimentaires. On les a beaucoup rencontrées, ces femmes, pendant les gilets jaunes. Moi, j'en ai reçu énormément. Je suis allée à leur rencontre de femmes mères toutes seules, séparées ou divorcées, et qui nous disaient « mais ça, c'est mon budget ». Et à la fin, il y a plus de dépenses que de revenus. Et comment je peux faire? Et quand on leur disait « mais et que fait le père de vos enfants? Est-ce qu'il contribue ?» Elles nous disaient « non, normalement, il y a une pension alimentaire, mais il a décidé de ne plus me la verser ». Et donc, c'est là que le président de la République a voulu faire preuve d'empathie, s'est mis à la place de ces femmes, s'est dit « quel dispositif on pourrait mettre en œuvre ?» Et donc, maintenant, ces femmes, elles reçoivent la pension alimentaire à laquelle, légitimement, elles ont droit.
Et cependant, je continue sur l'étude, il y a une conclusion qui est vraiment très forte. Finalement, à peu près tous les Français, nous disent les économistes, ont presque tous les Français ont vu leur niveau de vie augmenter depuis 2017. Et il y a une grande exception, les 5% de ménages les plus modestes, ceux qui vivent avec moins de 800 euros par mois. Et vous savez bien qu'il y a beaucoup de femmes, en effet, parmi ces précaires.
Sûr.
Les plus pauvres sont-ils les grands perdants de ce quinquennat? Et les chômeurs, avec la réforme de l'assurance chômage?
Mais pour moi, être... La façon dont on voit les choses, c'est qu'une personne qui est au chômage, c'est une situation bien évidemment transitoire. Et donc tout le travail qui est mené par le gouvernement, c'est de faire en sorte d'accompagner ces chômeurs et pour qu'ils puissent travailler et pour qu'ils puissent avoir un vrai travail, un vrai salaire. Depuis 2017, on a créé plus d'1 million d'emplois en plus qui n'existaient pas pendant le quinquennat précédent. Ça aussi, c'est important. Il y a aujourd'hui 200 000 emplois manquants qui ne trouvent pas preneur dans la restauration, par exemple. C'est aussi pour ça qu'on crée le dispositif Un jeune, une solution, qu'on met de l'argent sur l'apprentissage pour faire en sorte que chacun puisse être formé et trouver sa voie professionnelle et bien sûr ne pas rester au chômage. Il n'y a pas un chômeur dans ce pays qui se dit que sa situation est agréable et qui souhaite rester au chômage. C'est pas vrai. Les gens veulent travailler et nous devons les accompagner vers le travail.
Et le chef de l'État dit que maintenant on peut viser le plein emploi. Cependant, vous dites qu'il y a de plus en plus d'embauches, etc. Oui, mais l'essentiel, ce sont des CDD de moins de un mois. C'est comme ça? C'est avec ce genre de travail-là qu'on obtient le plein emploi?
D'abord, ça dépend des offres. J'ai fait un déplacement dans l'Orne la semaine dernière.
Toutes catégories confondues, j'entends bien, mais les chiffres, je suis en macro, là, en macroéconomie.
Oui, bien sûr.
Voilà, ce sont plutôt vraiment
Moi, j'ai rencontré une chef d'entreprise qui dirige des usines de fabrication de coton, de produits à base de coton, et qui me disait qu'elle ne trouve pas et qu'elle cherche aussi des encadrants, des postes en CDI dans l'Orne et qu'elle ne trouve pas preneur à ce stade. J'ai même rencontré, voyez-vous, la secrétaire générale d'une grande agence de publicité qui me disait à quel point, notamment depuis le confinement, le rapport au travail avait changé. Et à quel point il était justement difficile de trouver des personnes formées, expérimentées, qui avaient envie de s'engager dans un CDI. Je pense que là aussi, il y a une réflexion macro également, et pas seulement en économie, en termes social aussi, à avoir sur la place du travail dans nos vies et sur la manière dont le confinement a peut-être un peu bousculé les choses à cet égard.
France Inter. Hashtag Question Paul.
Question à la ministre déléguée en charge de la citoyenneté. Le 9 décembre prochain, nous célébrerons, je ne sais pas si c'est le bon terme, la journée de la laïcité.
Oui, on peut célébrer. Oui.
Pourquoi est-ce qu'on en a besoin en France de le faire aujourd'hui?
Les atteintes à la laïcité n'ont jamais été aussi graves et je pense que le pays a été tout entier.
N'ont jamais été aussi graves depuis quand?
Bien sûr. Bah, je vais vous donner un exemple triste, la décapitation du professeur Samuel Paty. Vous avez là un professeur qui a donné un cours sur la liberté d'expression et qui pour cela est traqué, jeté en pâture sur les réseaux sociaux et in fine décapité en pleine rue à 17h à quelques pas du collège dans lequel il enseignait. C'est évidemment un fait gravissime, une forme de traumatisme aussi, je crois, pour notre pays, pas seulement pour le corps enseignant. Et donc, je crois que la défense de la liberté d'expression, la défense de l'enseignement libre, qui est une des spécificités françaises, avec l'école libre gratuite, laïque et obligatoire, et ce, maintenant dès 3 ans, je crois que c'est fondamental et ça doit être défendu. Et puis, par ailleurs, il y a un certain nombre d'atteintes à la laïcité, un petit peu quotidiennes, j'ai envie de dire, face auxquelles nous avons pris des dispositions, notamment dans le projet de loi pour conforter les principes républicains, puisque nous avons notamment étendu la neutralité religieuse aux délégataires de services publics, donc c'est-à-dire également dans le secteur des transports, dans lequel vous aviez parfois des faits d'atteinte à la laïcité.
Vous pouvez sur cette loi confortant les principes républicains, on se souvient qu'un des enjeux, c'était de lutter contre l'islam politique, et notamment l'arrivée d'imams financés par des pays étrangers. La loi de 1905 rend l'État assez impuissant là-dessus, la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Est-ce qu'on est arrivé au point où il faut remettre en question cette loi, la réaménager? Quel est votre avis là-dessus?
Non, moi je crois que la loi de 1905 pose un socle, évidemment, avec des principes fondamentaux dans ses premiers articles, notamment en définissant la laïcité, sans jamais utiliser le mot de laïcité au demeurant dans la loi, en tout cas au moment de 1905, en disant que la laïcité, c'est d'abord la séparation des églises et de l'État. C'est un principe fondamental, évidemment, qu'il faut défendre, d'une part, et puis que c'est d'autre part aussi la liberté de conscience, et donc aussi la liberté de culte, et que dans ce pays, chacun doit être libre de pratiquer sa religion s'il le souhaite, sans être inquiété pour cela. C'est d'ailleurs pour ça que le ministère de l'Intérieur finance notamment la sécurité de la vidéosurveillance aux abords des lieux de culte, au moment de toute fête religieuse, que ce soit les églises, les mosquées, les synagogues, etc. Ensuite, nous avons renforcé la loi de 1905, parce qu'il y a des choses qui n'existaient pas à ce moment-là. Je parlais de la neutralité religieuse des délégataires de services publics. Il n'y avait pas ou peu de délégataires de services publics au moment de 1905. Il y a des atteintes qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque. Au moment de 1905, la question de l'islamisme radical n'était pas un sujet dans notre pays. Donc c'est pour ça que nous avons voulu renforcer ces dispositions. Et notamment en allant plus loin, nous avons par exemple créé une administration de la laïcité. Elle n'existait pas. Quand j'ai pris mes fonctions il y a un an et demi, j'ai demandé au président de la République et au Premier ministre que nous puissions disposer d'un bureau de la laïcité, comme il y a un bureau des cultes au ministère de l'Intérieur, qui puisse suivre cela et notamment diriger la formation des agents publics à la laïcité. Et nous avons aujourd'hui un plan de formation pour que 100% des agents publics soient formés au principe de laïcité dans les prochaines années.
En quoi vous êtes, pardonnez-moi, en quoi ce combat est spécifique est-il le vôtre? Est-ce que vous avez l'impression que tous les partis politiques ou tous les candidats à venir vont le mener de la même façon, alors est-ce que vous trouvez que certains ne sont pas nets?
Oh bah je ne serais pas permis de le dire comme ça, Nathalie Saint-Cricq, mais oui, j'ai l'impression qu'il y a des candidates et des candidats. Non, mais vous avez raison, il y a des candidates et des candidats qui sont nets, comme vous dites, qui sont clairs sur ce sujet, à gauche comme à droite. Si vous prenez Fabien Roussel, les propos qu'il tient sur la question de la laïcité sont toujours très clairs. Et d'ailleurs, il a été avec son parti, avec le Parti communiste, avec Marie-Georges Buffet et d'autres acteurs dans le projet de loi pour conforter les principes républicains. Nous avons d'ailleurs fait adopter certains des amendements que le Parti communiste a proposés. Et à l'inverse, vous avez des partis comme Europe Écologie Les Verts, dont on ne sait toujours pas ce qu'ils pensent sur ce sujet. Ils ont désigné Yannick Jadot comme leur candidat. Yannick Jadot est plutôt clair dans ses propos personnel sur ce sujet comme sur d'autres. Je n'ai pas le sentiment que ces propos soient partagés par l'ensemble d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez quand même dans ce parti politique, par exemple, le maire de Grenoble qui a financé le CCIF pendant des années, jusqu'à ce que le gouvernement dissolve le CCIF en Conseil des ministres. C'est un problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons créé le contrat d'engagement républicain, dont le mot d'ordre est « pas un euro d'argent public aux ennemis de la République ». Il est anormal et incompréhensible que l'argent des impôts des Français aille financer des organisations islamistes dont certaines font par ailleurs l'apologie du terrorisme, etc. Avec ce contrat, ce ne sera plus le cas.
Et en dehors de Verts et d'Europe Écologie, le reste, la droite, la France Insoumise, tout ça, ça vous convient? C'est le même combat?
Ah bon, je ne vais pas distribuer les bons et les mauvais points.
Non, mais la question, il n'y a pas de raison de cibler que les Verts, donc autant faire le tour.
Alors moi, je vous donne un exemple. Vous me posez la question, je vous donne l'exemple de ceux qui sont, à mon sens, le plus ambigu parce qu'ils n'ont pas clarifié leur position. Au Parti Socialiste, pour ce qu'il en reste, et il y a des motions qui sont prises sur ce sujet. J'ai pas le sentiment qu'ils soient d'accord entre eux. Vous avez d'un côté des gens comme Jérôme Guedj qui défendent ce principe de laïcité, et puis de l'autre côté, des gens qui sont plus ambigus, dont on ne sait pas exactement ce qu'ils pensent. Et voilà. La France Insoumise, c'est la même chose. Vous avez des gens qui tiennent, et puis y a Mélenchon des jours pairs et Mélenchon des jours impairs sur la laïcité, si vous voulez. Des moments où il fait des grandes déclarations sur l'universalisme et la République, et on se dit, ah, bah, quand même, c'est pas mal, il a l'air bien, etc. Et puis vous avez des moments où ils vont défiler avec les islamistes, dans lesquels, des manifestations dans lesquelles il y a des slogans antisémites. Et là, on se pose la question, on se dit quel était le jour où il fallait vraiment l'écouter.
C'est une accusation très, très lourde. Est-ce que vous les accusez de quoi? De compromission avec les terroristes?
C'est pas une accusation lourde,
parce
c'est un fait.
Vous dites qu'il y en a des nets et des pas clairs. Ceux qui ne sont pas clairs, ils le font par ignorance ou par, qu'est-ce qu'est les motifs selon vous?
Eux seuls pourraient répondre. Je ne dis pas qu'ils soient complices des terroristes. Et justement, le but de cette loi, c'était de travailler sur le terreau du terrorisme. Nous nous disons avec le président Emmanuel Macron depuis 2017 qu'entre rien et le terrorisme, il y avait ce qu'on appelait à un moment une zone grise, un peu à tort, et donc un spectre de radicalisation, un spectre bas de signaux faibles. C'est d'ailleurs sur ce fondement qu'on fait fermer, par exemple, des mosquées radicalisées, des librairies radicalisées qui prônent le djihad, qui prônent des textes antisémites. C'est là-dessus que nous faisons fermer des associations, prétendument associations sportives ou d'aide aux devoirs, qui en réalité font de l'endoctrinement des jeunes. Donc oui, ce spectre bas, ce terreau du terrorisme qu'on a appelé séparatisme, il existe en France, il faut le voir, et nous agissons face à cela.
Comme le disait Nathalie Saint-Cricq tout à l'heure, vous parlez beaucoup de la gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que votre conception de la laïcité est conforme à celle que peuvent avoir les candidats LR?
Pas du tout. En fait, je parle de la gauche parce que c'est ce que je connais. Je viens de la gauche, j'ai été élue dans une majorité avec des socialistes, des communistes, des écologistes, de la société civile, et c'est la mouvance dont je suis issue. Je connais beaucoup moins bien les 50 nuances de laïcité du Parti Les Républicains, mais j'observe que je ne suis évidemment pas proche de modes de pensée comme par exemple Éric Ciotti. Je me suis affrontée avec lui, d'ailleurs nous nous sommes affrontés à l'Assemblée nationale, puisqu'il voulait, il brocardait une femme qui était voilée et qui avait tenu un bureau de vote, alors qu'on était en pleine abstention et avec toutes les peines du monde pour trouver des assesseurs. Et il avait mis à l'index cette femme, et moi j'avais défendu cette femme. Par exemple, moi je ne suis pas pour l'interdiction du voile pour les sorties scolaires. Éric Ciotti l'est, il souhaite interdire, a-t-il dit, le voile dans l'espace public. Je ne sais pas comment on fait cela. La loi, elle ne peut pas viser un signe religieux en particulier. La loi a une portée générale. Je ne crois pas qu'il soit souhaitable d'interdire ni le voile, ni la kippa, ni les croix, ni tout ce qu'on veut dans l'espace public. La liberté religieuse, c'est aussi une composante de la laïcité.
Vous parliez des bureaux de vote. J'en profite pour rebondir sur votre portefeuille, la citoyenneté. Comment est-ce que vous allez réussir à attirer à nouveau les citoyens pour aller voter?
Alors j'espère qu'on va réussir, je n'en ai pas la certitude puisque...
Quelles mesures à mettre en place ?
Alors on a des mesures à mettre en place, alors peut-être sur le constat, observer que année après année, depuis des générations,
le constat, je crois que tout le monde est conscient. Surtout avec les derniers scrutins municipaux et régionaux, je pense honnêtement,
nous partageons le constat.
Alors les mesures.
Face à ça, les mesures que nous allons mettre en place, d'abord nous sommes en train de travailler à une campagne institutionnelle sur le vote. Il y a un certain nombre d'informations liées au vote dont ne disposent pas les citoyens. Moi, j'étais frappée après les régionales de voir, j'étais tête de liste à Paris, de voir le temps que nous avions passé à tracter, à faire des meetings, à communiquer sur les réseaux sociaux, donner des interviews, etc. Et de voir que quelques semaines après, on a des gens qui nous ont dit « je ne suis pas allée voter parce que je ne savais pas qu'il y avait des élections ». J'étais assez frappée de cela. Donc d'abord, moi, j'ai réuni pour nous adresser notamment aux jeunes, qui sont ceux qui s'abstiennent davantage. J'ai créé une task force avec des réseaux sociaux pour leur demander de prendre des initiatives pour que Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram, etc., etc., communiquent en direction de leurs abonnés, d'abord sur les dates des élections, ensuite sur la manière dont on peut s'inscrire sur les listes électorales. La mal-inscription sur les listes électorales est un fléau en France. Vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits là où ils habitent, qui du coup ne prennent pas le train ou ne se déplacent pas pour aller voter, etc. Ensuite, nous avons des dispositifs sur les procurations. Et notamment, nous avons renforcé un dispositif qui s'appelle maprocuration.fr, qui est d'ores et déjà ouvert, dans lequel vous pouvez désigner une personne pour prendre votre procuration.
Marlène Schiappa, je me permets juste de vous couper. Vous nous expliquez qu'on ne vote pas parce qu'on n'est pas assez informé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'on ne vote pas parce que
on n'a pas envie.
On n'a pas envie de voter.
C'est plurifactoriel, mais vous m'avez demandé de ne pas faire le constat. Donc je n'ai pas partagé
le constat.
Mais là,
c'est pas le constat.
Alors, finalement, si je poursuis la question de Thomas, c'est comment réconcilier les citoyens avec la classe politique ?
Il y a plusieurs
facteurs.
C'est ça
la vraie question qui est en train de se poser.
Vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a un facteur d'information. Et ça c'est une part
de
ça.
On a dit
bon, ça existe depuis
là-dessus, Non, ça n'existe pas depuis plusieurs années. Maprocuration.fr, c'est nouveau, ça n'existait pas. Il faut le dire, il y a des gens qui pensent que faire une procuration, c'est long, qu'il faut faire la queue, que ça prend des heures. Ce n'est pas le cas. Okay. C'est très rapide, ça prend 5 minutes.
Réconcilier la classe politique avec les citoyens.
Ensuite, et je termine là-dessus, vous avez maintenant de nouvelles cartes d'électeurs sur lesquelles vous avez un QR code. Ça veut dire que n'importe qui a sa carte d'électeur flash et dispose de toutes les informations. Ensuite, il y a une question de plus long terme que vous me posez et qui existe, si vous me le permettez, depuis bien avant 2017, sur la manière dont on peut croire les responsables politiques, dont on peut leur faire confiance, le rôle qu'on donne aux responsables politiques. Moi, j'ai été jusqu'à l'âge de 34 ans, je n'étais pas dans la politique nationale, j'étais présidente d'association. Quand je venais sur les plateaux de télévision, on m'accueillait très favorablement et on trouvait que ce que je faisais était très intéressant et désintéressé. Et depuis que je suis ministre, quand on est ministre, il y a un regard biaisé, négatif, qui est porté sur les responsables politiques. On nous soupçonne de tous les maux. On l'a vu pendant la période des Gilets jaunes. Et puis, par ailleurs, il y a autre chose et je vais me permettre de vous le dire. Moi, j'observe que quand on veut aller dans les médias pour faire le bilan de ce que nous avons fait, c'est rare que nous puissions le faire. Vous m'avez donné la possibilité de le faire ce matin et je vous en remercie parce que c'est rare. Très souvent, quand un ministre veut aller présenter le bilan de son action, on lui dit « le bilan ne nous intéresse pas, nous voulons avoir des annonces ». Si bien que nous sommes dans une espèce de course aux annonces sempiternelles et que les gens qui écoutent se disent « ces ministres, ils font tout le temps des annonces et on ne sait jamais ce que leurs annonces sont devenues ». Je pense que ça fait partie aussi de cette défiance.
Une dernière question sur ce sujet, parce que le temps tourne et on a encore plein d'autres choses
plein
à Bordeaux. Non, mais ça va être très cru, mais est-ce que le niveau de la classe politique a baissé, comme a pu le dire Xavier Bertrand récemment et comme a pu l'écrire Éric Zemmour?
Je trouve ça un peu facile quand on appartient à la classe politique du passé ou qu'on a été ministre il y a 2 ou 3 quinquennats, de dire c'était mieux quand c'était moi et le niveau a baissé. Et je trouve que derrière, il y a un peu de mépris de classe. Moi, je me réjouis qu'il y ait des jeunes qui soient maintenant ministres, qu'il y ait des personnes qui aient grandi dans des quartiers populaires, qui n'aient pas fait l'ENA ou sciences politiques et qui puissent avoir accès à des responsabilités. La vie politique, elle ne doit pas être réservée à une petite élite qui aurait fait les mêmes écoles, qui aurait grandi dans les mêmes quartiers, qui parlerait le même langage. Donc moi, je ne crois pas que le niveau politique ait baissé. Et je pense encore une fois que la démocratie, c'est la possibilité de choisir ses gouvernants. Si les Français sont mécontents des personnes qui les gouvernent, ils peuvent voter et en changer.
Marlène Schiappa, j'ai beaucoup travaillé sur les élections américaines, notamment de 2020. Et il y a beaucoup de gens qui sont revenus voter parce qu'il y avait une radicalité dans les propositions.
Ouais.
Est-ce que, par exemple, l'une des vertus d'Éric Zemmour, c'est pas de ramener des tas de gens au vote pour lui ou contre lui, mais en tout cas parce que ça remet de la politique un peu partout?
Bon, d'abord, à ce stade, ça reste à démontrer. Pour l'instant, il n'y a pas un Français qui ait déjà mis un bulletin Éric Zemmour dans une urne et pour cause.
Vous avez compris l'idée qu'il y avait derrière, c'est la question de la radicalité des idées qui peuvent pousser des gens à se dire « tiens, je vais y aller ».
Oui, mais ça s'appelle de la démagogie. Et c'est ce que disait Albert Londres sur le journalisme. Il disait qu'il y a des mauvais journalistes qui disent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre et les bons journalistes qui parlent de leur sujet et qui amènent leurs lecteurs ou leurs téléspectateurs à s'intéresser au sujet dont ils ont envie de parler. C'est pareil pour la politique. Je crois pas qu'il faille forcément dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre ou aller dans le sens du vent. Et puis après, qu'est-ce que la radicalité? Comment on définit la radicalité? Quand Emmanuel Macron arrive en 2017, qui n'a pas de parti politique, qui n'a jamais été auparavant élu, qu'il est nouveau dans le paysage politique et qu'il veut renouveler les usages, renouveler les visages, faire de la politique différemment, c'est aussi une forme de radicalité.
Et comment faut le traiter? Pardon, excusez-moi, est-ce que la question s'est posée au gouvernement de savoir s'il faut aller l'affronter sur des plateaux télé? Vous avez choisi à un moment donné d'aller faire plein d'émissions en disant que c'était là que ça se passait. Est-ce que vous considérez qu'il faut faire ça? Ou alors faut ne pas le surestimer, lui donner une trop grande importance en l'affrontant?
Moi, j'ai déjà débattu face à Éric Zemmour quand il n'était pas candidat sur CNews. D'ailleurs, je crois que
c'est toujours pas normalement. Mais bon.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. J'étais d'ailleurs la première membre du gouvernement à venir faire un débat face à face avec Éric Zemmour sur des questions comme l'immigration, les droits des femmes, etc. Moi, je pense qu'il faut répondre pied à pied sur le fond.
Il y a une consigne, est-ce qu'il y a une consigne d'Emmanuel Macron sur la façon de faire ça?
Il n'y a pas de consigne. En revanche, tant qu'Éric Zemmour n'est pas candidat, manifestement, nous n'avons pas de raison d'aller débattre face à lui plus que face à qui que ce soit d'autre. Et donc, nous verrons
Non, mais il y a riposté aussi aux propos qu'il peut faire, aux propositions qu'il peut faire.
Moi, je riposte, vous le savez très bien. Moi, je réponds à tout. Peut-être pas à tout, mais je réponds à beaucoup sur les principes. Parce que pour moi, il y a des principes intangibles. La liberté de la presse en fait partie. C'est un signe de bonne santé de la démocratie d'avoir des journalistes libres et qui ont le droit de critiquer les gouvernants, de leur poser des questions, de les mettre face à leurs contradictions, etc. C'est un signe de démocratie. Et moi, je ne peux pas admettre les propos qui avaient été tenus par Éric Zemmour pour le fait de dire que les médias, la justice avaient trop de pouvoir, etc. Je ne suis pas d'accord avec cela. C'est la même chose sur les droits des femmes. Et moi, si vous voulez, je déplore un peu le glissement du débat. Alors, pas tellement sur le service public, mais sur d'autres chaînes. Vous avez vraiment un glissement du débat où maintenant, on se pose des questions comme parité, faut-il revenir sur les lois pour les droits des femmes? Ou peine de mort, faut-il revenir sur l'abolition? A-t-on droit de maltraiter les journalistes ou de les insulter, etc.? Moi, je ne pense pas que ça fasse grandir véritablement le débat public.
Et qu'est-ce que dit, à vos yeux, qu'est-ce que dit le succès relatif de ce presque candidat Éric Zemmour, justement, sur l'évolution de la société française? Vous parliez tout à l'heure vous disiez qu'on est dans une transition féministe. Est-ce que cette irruption de ce candidat
putatif,
invalide pas complètement cette vision?
Ah non, pas du tout, parce que partout dans le monde, il y a ces phénomènes de backlash. Et comme on est dans des transitions, on sait que la transition insécurise celles et ceux qui ne veulent pas y faire face. Et comme vous avez des climato-sceptiques, vous avez des féministo-sceptiques qui se manifestent. Mais moi, ce que j'observe, c'est que Éric Zemmour, il met... Vous me posez la question sur la majorité, et nous, avec Emmanuel Macron, nous sommes tous au clair face à Éric Zemmour. Nous le combattons. Nous combattons l'extrême droite, nous combattons les populistes. Il y a en ce moment des débats pour savoir qui va être le candidat LR à l'élection présidentielle. Que pensent les Républicains d'Éric Zemmour? Est-ce qu'ils veulent travailler avec lui? Est-ce qu'ils le combattent? Est-ce qu'ils le rejoignent? Ce n'est pas clair en fonction des candidats. Vous en avez un qui a dit qu'en deuxième tour, Macron-Zemmour, il voterait Zemmour. Si j'étais membre des Républicains jupéistes, gaullistes, de cette tradition, ça m'interrogerait beaucoup. C'est Éric Ciotti, absolument. Et vous en avez d'autres qui refusent de se prononcer. Et donc, qui sont dans une forme de nini qui me semble assez anti-républicain, pour le coup.
J'ai une dernière question pour vous d'actualité. Ce matin, Gérald Darmanin a dit son opposition totale à la légalisation du cannabis, allant plutôt à l'encontre de son ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est plutôt favorable. Quelle est votre position à vous?
Moi, ma position, c'est à la fois la position d'une fille qui a passé beaucoup de temps dans les cités HLM quand elle était gamine et qui a vu beaucoup de ses copains tomber dans le cannabis avec des issues parfois tragiques, d'une part, et d'autre part, c'est la position d'une ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron, président de la République, qui s'est déjà prononcé contre la légalisation du cannabis. Donc en cela, moi, je rejoins le président de la République, le ministre de l'Intérieur et ma propre position.
Juste une dernière petite question, et on entend beaucoup, c'est le temps des femmes en politique. On entend Anne Hidalgo dire, et ça serait bien
notre tour. J'ai pas eu le mémo.
Alors, pour vous, est-ce que vous considérez que 2022, c'est le temps des femmes?
Je pense que c'est...
Il y a un doute.
Non. Oui, parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure de la société reste misogyne.
Vous avez dit, quand on cherche des femmes, on en trouve. Hein.
Absolument, mais je crois que la vie politique, elle a été construite par des hommes et pour des hommes. Et je pense qu'elle reste fondée sur des codes misogynes. On le voit y compris dans des débats, le but c'est d'écraser l'autre, de crier le plus fort. On pose encore des questions comme est-ce qu'elle aura les épaules quand on parle d'une femme. Il y a toujours un double standard, si vous voulez, pour les femmes. Pour les hommes, il y a cette présomption de compétence. Sur un plateau, si on voit arriver un homme politique avec un costume et une cravate, on va supposer qu'il est expert de quelque chose et très légitime. Si vous voyez arriver une fille avec du maquillage, des bijoux, les cheveux détachés, ou qu'en plus elle est jeune, ou de la diversité ou autre, il y a une présomption d'incompétence. La question, c'est un peu qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là. Les femmes, elles restent des outsiders en politique quand même.
Et pourtant, vous allez soutenir un homme dans quelques mois.
Absolument.
À la présidentielle, Emmanuel
Parce
Macron.
Parce que c'est un homme qui avance pour les droits des femmes. Il y a des femmes qui ne sont pas des amies des droits des femmes. C'est le cas par exemple de Marine Le Pen qui vote contre les droits des femmes dans toutes les instances où elle siège quand elle daigne s'y rendre.
Merci Marlène Schiappa, merci Alexandre Gilardi, Jean-Philippe Ballas pour la préparation de l'émission, Clément Berman et Guillaume Roux pour la réalisation. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau Question Politique.